dire deux fois que vous avez entièrement raison. Est-ce qu'il y a des remarques concernant le procès-verbal du 23 avril 2018 ?
En l'absence de remarques, je vous propose de procéder au vote. Contre ? Un contre. Abstention ? Trois abstentions. Je vous remercie. Approuvé, je vous remercie. Pour vous tenir au courant, comme à chaque conseil municipal, selon l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions qui ont été prises. Donc, une décision qui a été prise le 26 avril 2018 pour souscrire un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en concurrence des contrats d'assurance de la commune avec le cabinet Arima Consultant, à ce qui est situé sur Paris, pour un montant de 2800 euros hors taxe. Donc, en fait, on demande à un cabinet de nous accompagner pour revoir l'ensemble des assurances de la collectivité, sachant que c'est quelque chose de très complexe et qu'on va arriver à échéance des assurances, donc c'est en préparation du renouvellement des assurances. Une deuxième décision prise le 2 mai 2018 concernant la souscription d'un marché d'études en vue d'une modification et de deux révisions allégées du plan local d'urbanisme avec le bureau d'études paysages qui est situé à Balma pour un montant de 11 200 euros hors taxe, marché tranche fermée. La tranche optionnelle afférente à l'évaluation environnementale de chaque révision allégée et de la modification pour l'objet d'un affermissement ultérieur, pour autant que de besoin, pour le montant respectif de 1 250 euros. Donc il faut savoir que il est possible, mais pas forcément, mais ce n'est pas, c'est pas assuré, que les services d'État puissent nous demander une évaluation environnementale. C'est pour ça qu'il y a une tranche optionnelle, c'est on le prévoit dès la constitution du marché. Et donc c'était bien sûr par rapport à ce qu'on avait déjà voté préalablement, à savoir une modification et deux révisions allégées, comme on l'avait déjà pu l'évoquer précédemment. Donc c'est la mise en exécution de nos décisions. Une autre décision prise le 3 mai 2018 sur la souscription d'un marché de travaux avec la société EVA, donc, qui a fini l'opération d'exécution de fouilles et maintenant qui va faire toute l'opération de travail, de mémoire, de datation carbone. Vous entendez pas bien ? Comme ça, c'est mieux. J'essaye. Et donc, c'était pour un montant de 37 000 euros hors taxe, donc, concernant les fouilles de la rue du Carré. Donc, on l'avait résilié parce qu'il y avait des problèmes au niveau juridique du marché. Et donc, on a relancé le marché. À nouveau, on a eu les mêmes candidatures. Et du coup, on a repassé le marché. Excusez-moi. Voilà. Et donc, je peux faire un petit point sur les fouilles. Elles se sont bien passées. On n'a pas de datation aujourd'hui exacte encore, puisqu'ils n'ont pas fait la datation carbone. Mais ils envisagent certainement des sépultures datant du 9 ou 8e siècle, avec une caractéristique particulièrement intéressante pour eux. Qui mettront certainement en exemple dans les documents pour l'initier, à savoir l'état de conservation du bois, qui est en très bon état de conservation, du fait qu'il y a une nappe phréatique à proximité, et que du coup cette nappe phréatique a pu garder l'eau, l'humidité constante, de façon équivalente tout au long des siècles, et donc cette non-variation de l'humidité a permis de garder tout en très bon état. Il y aura une présentation qui sera faite à la population, avec les personnes qui ont fait les fouilles, certainement en septembre, octobre, en fonction de l'avancée de leur clôture de projet, de mémoire. Sur ce, je vous propose de passer à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'approbation du règlement intérieur de la piscine municipale pour l'année 2018. Donc, peut-être que je vais prendre le... pour parler.
Donc vous avez eu le détail dans la note de synthèse des horaires. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une ouverture du 2 juillet au 31 août, sachant que la première semaine du 2 au 6 juillet, ce seront les scolaires qui pourront du collège qui iront, accompagnés bien sûr de leurs professeurs. Et du 7 juillet au 31 août, donc une ouverture de 13h30 à 19h30 tous les jours, sauf le lundi. Donc, elle n'est pas ouverte le matin parce qu'on a été en difficulté pour pouvoir recruter un second maître nageur. On s'est renseigné auprès des autres personnes qui ont des piscines et visiblement, recrutement. Beaucoup d'autres piscines ont eu des difficultés pour recruter un deuxième maître nageur, enfin d'autres maîtres nageurs. Et voilà, donc face à cette difficulté-là, on a pris une partie pour ouvrir le temps qu'on pourra, sachant que le professeur, lui, va proposer des cours d'aquagym et des cours le matin. Mais madame, je vous incite à passer votre diplôme de ménageur et je serais ravie de pouvoir faire.
Je vais vous dire que les deux maîtres nageurs, nous n'avons jamais eu de difficulté à les recruter. Voilà,
mais c'est très bien. On n'a rien changé à la règlement par rapport à l'année dernière. Donc, si jamais il y a un problème d'interprétation par rapport à ça, vous avez raison.
On l'a là, le règlement ?
Oui,
c'est moi qui l'ai.
Il est derrière le document. Oui.
Où est-ce que vous le voyez,
monsieur ?
Article 7, il
s'agit
de
fumer,
demande
j'ai
un bassin. On peut le rectifier en mettant des bassins.
Oui, vous avez peut-être raison, il faut peut-être le spécifier. Pour nous, c'était par rapport aux barrières qui allaient de soi, puisqu'en plus, il y a on va le voir un peu plus loin, un endroit où on vend dans l'enceinte globale de la piscine. Voilà. Donc, vous avez raison, ça peut être soumis à interprétation et il vaut mieux peut-être le préciser. Tout à fait. Donc, à la limite, on peut mettre dans le périmètre des bassins. Dans le périmètre de baignade, ça paraît un bon terme. Sur les plages de baignade. Sur les plages, ça vous va? Dites-moi, parce qu'on le fait là, donc c'est temps que ce soit...
Le fumer, c'est partout.
Non, non. Il faut périmètre de
fumer. C'est un espace public, mais oui, autant le... Il vaut mieux le laisser quand même. C'est pas partout, parce qu'ils peuvent fumer devant la piscine. Devant l'enceinte de la piscine.
Mais pas.
Ah oui, mais défini. Vous avez des petites barrières qui séparent les...
Il y a le pédilive, alors.
Pardon ?
Dans le texte, c'est-à-dire.
Et de manger dans l'espace situé derrière
non, le périmètre.
À l'intérieur de la main courante.
Dans l'espace bordé par la main courante.
Très bien. Parfait.
Limité.
L'espace limité par la main courante.
Après, il est pas enfin voilà, il est juste après précisé qu'il est interdit d'introduire dans l'enceinte de la piscine des boissons alcoolisées, des emballages en verre, ce qui va de soi au niveau sécurité. Est-ce qu'en l'état ça vous va ou est-ce que vous avez d'autres remarques? Donc, en absence de Romain, je vous propose de procéder au vote. Contre, abstention.
Contre par rapport au matin.
Donc, un contre, abstention, une abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au plan 2, au point numéro 2, approbation du plan d'organisation de la surveillance et de secours de la piscine municipale.
C'était qui l'abstention, monsieur Sonne. Apolline, tu veux le présenter ça ou pas? T'as pas. Non,
je peux. Donc, le contenu du POS est précisé aux articles A 322-12 et 322-17 du Code du sport. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade, de natation et de planification des secours, qui a pour objectif de prévenir les accidents liés à des activités, de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte, de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident. Le poste doit être connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement. Il est établi par l'exploitant et prend place par l'organisation générale de sécurité de l'établissement. Est-ce que vous avez des remarques sur les postes? En l'absence de remarques, oui. En l'absence de remarques, je propose de passer au vote. Contre, abstention, une abstention. Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point. Mais ça, on le vote après. La tarification municipale, c'est voté après.
Non, c'est le plan d'organisation.
Oui, c'est dans le plan, mais après. Après, on a un vote à part sur la tarification. Mais après, si vous voulez vous exprimer là-dessus, il n'y a pas de... On va le voir après. Comme à chaque fois, on vote les tarifs municipaux, toujours, c'est pas bon. Donc là, on a voté. Donc je propose de passer au point suivant. Convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de la rivette de la piscine municipale. Donc là aussi, ça concerne toujours la piscine. Donc il vous est proposé que nous avons une seule candidature de Madame Joanne Sandra, qui est immatriculée au RCS, qui habite sur la commune de Rium. Nous proposons d'autoriser cette société à exploiter la buvette de la piscine municipale pour la saison estivale 2018 et précise qu'en contrepartie de cette autorisation, cette société s'engage à verser une redevance de 60 euros. Donc vous pourrez me dire que c'est très peu. Je vous avoue qu'on a eu énormément de mal à trouver quelqu'un. On s'est même posé la question de mettre un distributeur avant de recevoir cette candidature, puisque aucun autre établissement de la commune ou dont nous avons connaissance n'a voulu le prendre, du fait qu'en fait, à mon avis, il y a une très grande incertitude, comme chaque année, sur les conditions climatiques, que eux, ça leur immobilise un personnel ou une personne, et du coup, le manque à gagner peut être très important. D'où aussi le fait que la redevance est relativement modeste, et parce que personne, peu de gens veulent prendre ce risque. En tout cas, on n'a pas trouvé.
On
aurait
pu faire un CDD.
J'estime que c'est peu. Enfin, voilà, ça c'est une question, c'est un choix politique. Je pense qu'alourdir les charges de la commune pour ça, on ne semble pas pertinent. C'est ce que vous dites, vous. Moi, je pense que moi, je suis proche des deniers de la collectivité et j'estime qu'on n'a pas à faire à employer un CDD pour ça. Oui, madame.
Quelle est l'activité de cette personne ?
Alors, on a son. L'extrait d'immatriculation. Donc, vente de sucré, salé, confiserie, tout article, foire et marché, boisson non alcoolisée à titre ambulant. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà une activité. Je vous propose de procéder au vote. Oui. Où on a sollicité les personnes qui l'avaient déjà exploité, qu'on a sollicité des personnes pour voir s'ils étaient intéressés, que tout le monde nous a répondu par la négative. On fait une réunion quand on a des choses à proposer. Là, on a eu une proposition. On allait faire une proposition, nous, de mettre un distributeur, et on a eu une proposition de prise en charge. Je comprends que ça vous déplaise. Ce qui est dommage, c'est que vous n'entendez pas mes explications. J'en suis désolée, mais vous voyez du mal, là où il n'y en a pas. La l'information, je vous la donne, je pense. Mais,
tout d'abord, quand on fait un appel à candidature, on émet une lettre pour faire passer à tous les élus avant l'appel à candidature. Voilà. Donc, on est toujours en train de
faire. Ça, bon, je pense qu'on va pas parler de la méthode, madame, mais je vous propose de passer au vote. Contre ? Deux contre, abstention, deux abstentions, approuvé, je vous remercie. Nous passons au règlement européen général de la protection des données personnelles, RGPD, désignation d'un délégué de la protection des données, DPD. Thierry, je te laisse la parole.
Donc, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en conformité avec ce qu'on appelle le RGPD, donc le règlement général européen de la protection des données, qui a été approuvé officiellement par le Parlement européen en avril 2016. Donc, ce RGPD européen remplace la loi nationale telle que la loi informatique et liberté de 1978. Il unifie la protection des données et facilite la libre circulation des données dans le pays des parents. Il est indiqué qu'une donnée à caractère personnel représente toute information relative à la personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, financières et ou pénales du représentant légal de la personne morale. Les sanctions pouvant être très lourdes, c'est pourquoi il faudrait nous désigner un délégué à protection des données, donc un DPO, qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD. Donc le rôle sera d'informer les conseillers d'organisme, responsables de traitement sur cet employé, réaliser un intérêt à la cartographie des données de l'organisme et de leur traitement, conseiller accompagner la gestion du registre de traitement des données personnelles, contrôler et veiller au respect de la règlement du droit national en termes de protection des personnes physiques et de droit d'accès, piloter la conformité en continu, identifier les actions à mener au regard des risques sur les droits et libertés des personnes, concevoir des actions de sensibilisation, conseiller l'organisation sur la réalisation d'études d'impact, coopérer avec la CNIL, donc, qui est la Commission nationale des droits et libertés, donc qui est l'autorité de contrôle. Donc il n'est pas le responsable exactement, il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance vis-à-vis du responsable. Et il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ses missions. Tout simplement, en fait, il y a déjà une réglementation qui existe en termes de protection des données, qui date de 1978 et qui a été renouvelée régulièrement. C'est celle qu'on appelle la loi informatique et liberté. Depuis peu de temps, donc, est entrée en vigueur une nouvelle loi qui va unifier la protection des données informatiques sur l'ensemble du territoire européen. Voilà. Pour ce faire, il faut désigner un responsable à l'intérieur de, ou de l'entreprise ou de l'association ou de la collectivité territoriale, bref, de toute structure à même de récupérer le souhait du bien et des charges proposées par la CNIL et qui est tout assez facile.
Donc, du coup, aujourd'hui, on voit juste le principe de désigner un délégué à la protection des données. On le désignera par arrêté après. Voilà. Il faudra échanger sur.
Ça peut être une personne en dehors de la.
Oui, ça peut être quelqu'un dans la de la commune, un agent, une personne à l'extérieur. Ça, voilà, c'est, je crois qu'on est assez libre par rapport à ça.
Alors, on est assez libre par rapport à ça. Ça peut être le maire, en revanche. Mais sinon, ensuite, on est assez libre. Il y a même des structures qui mutualisent en fait, un DBO, c'est-à-dire qui en fait plusieurs de manière à pouvoir intervenir sur l'ensemble et avoir une gestion globale.
Ah, n'importe qui, c'est une personne qui a les compétences pour ça et qui.
N'importe qui, ça tient au moins, par exemple. Ça arrive, je vais perdre, est-ce que j'ai le droit?
Ah non, il faut que. C'est un arrêté déjà qui le détermine, donc voilà, c'est pas quelqu'un qui s'autodésigne.
D'accord. Il y a des compétences pour le faire.
Ah, oui. Voilà. En soi, rien n'est interdit, effectivement, d'être délégué. Il faut effectivement au mieux avoir les compétences par rapport à ça, c'est.
Je vous propose de procéder au vote donc, sur le principe de désigner un délégué à la protection des données. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 5, syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Garonne, transfert de compétences complémentaires. Je vais laisser la parole à Alain.
Comme vous le savez, nous sommes liés avec le SMEA 31 depuis 2009. Pour ce qui est de la station d'épuration, donc du traitement des eaux usées de la commune. Nous vous proposons, suite aux négociations qui ont été entamées maintenant depuis de longs mois avec le SMEA, de transférer maintenant la collecte des eaux usées, le transport des eaux usées, à ce même syndicat. Donc il faudra voter, bien entendu, pour que cette assemblée transfère sur le syndicat mixte des compétences complémentaires, c'est-à-dire la collecte des eaux usées et le transport des eaux usées. On proposera au syndicat mixte d'assainissement de Haute-Garonne de fixer la date d'effet de ce transfert de compétences au 1er janvier 2019. Et bien sûr, donner délégation à Mme le maire pour effectuer toutes les démarches.
Est-ce qu'il y a une question ?
Mais alors, vous savez que depuis des mois, nous négocions avec le SMEA. Depuis 2009, par convention, le SMEA assure la facturation de l'assainissement. Nous arrivons, j'allais dire, quelque part, un petit peu à une échéance financière, à savoir que demain, il y aura des travaux à faire à la station d'épuration. Il y aura aussi des travaux d'investissement pour finaliser tout ce qui a été le schéma directeur d'assainissement qui a été adopté au moment du PLU, et notamment des tranches de réseau concernant le chemin de l'Escoubé, le chemin des Chênes, la route de Bérac, l'avenue de Toulouse, quoi d'autre encore, la rue Notre-Dame, la place de la Poste. En fait, il y a beaucoup d'investissements qui se profilent à l'horizon. Donc on a effectivement besoin d'une une mutualisation de ces investissements qui seront quand même relativement difficiles à supporter à la commune. Ensuite, vous savez parfaitement que le transfert de compétences de l'assainissement est prévu en 2020 à la communauté de communes. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui nous échappera en gestion. Et il nous a paru utile d'anticiper ce transfert de compétences, étant donné que nos ressources personnelles au niveau de l'assainissement et du budget que nous votons chaque année sont limitées, liées au versement par le SMEA des factures qu'il encaisse en notre nom. Et tout cela devient un petit peu compliqué, sans compter, j'allais dire, la gestion technique de l'ensemble du réseau, puisqu'elle a toujours été assurée par le SMEA. Donc, l'utilité de garder une telle compétence à l'heure actuelle ne paraît pas très importante.
Et après, il y avait une question aussi de cohérence, parce qu'en 2013, vous aviez transféré le traitement des eaux usées, donc il semble assez cohérent de garder quand même aussi l'unité sur l'ensemble des eaux usées en général, sur la collecte.
Dans les discussions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, si vous voulez, nous avons des courriers d'engagement de Réseau 31, de la dénomination commerciale du SMEA, qui s'est engagé à faire l'ensemble, un programme sur l'ensemble des travaux que je viens de vous citer. Donc
vous avez l'engagement.
Voilà, on a un engagement écrit.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous propose de procéder au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point suivant, modification statutaire du SIA du Touche concernant son périmètre. Donc, vous dire que lors de l'Assemblée du 17 mai 2018, le SIA a procédé à une modification statutaire comprenant l'extension du périmètre d'intervention du syndicat au bassin versant de l'Ossonel, de la Garonne moyenne et de l'Auge et de la Toulouse. L'extension ou le cas échéant la restriction du périmètre d'intervention du syndicat sur le territoire des EPCI AFP actuellement adhérents par application du mécanisme de représentation-substitution et insertion dans les statuts d'un article 2 des dommés territoire précisant le pourcentage du territoire des communes de chacun des membres du syndicat. Et enfin, l'extension de l'objet social du syndicat à deux nouvelles compétences optionnelles ainsi que l'habilitation statutaire du syndicat à effectuer des prestations de services pour ses membres ou au profit des tiers. Donc, nous vous demandons d'approuver les statuts, le nouveau périmètre des statuts du SIH. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, moi j'aimerais savoir comment évoluent les contributions versées au SIH.
Il n'y a pas de... pour la commune. Mais ça n'a pas bougé. Hein.
Il n'y a pas eu d'évolution?
Voilà, il n'y a eu aucune évolution par rapport à ça. Et justement, le président a tenu, et là, le bureau. Mmh. Ont tenu justement ces contributions faites au même niveau à l'heure actuelle. Elles sont maintenues pour le moment. Alors, il n'est pas dit, vous savez aussi bien que moi, avec la mise en place de la GEMAPI, il n'est pas dit que ces contributions ne changent pas. Mais pour le moment, c'est l'objectif de l'Assemblée du SIH.
Sachant qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas forcément apparaître, je pense, sur le budget, puisque maintenant, c'est transféré à l'Interco. C'est en transfert de charge, puisque c'est l'Interco qui est le reverse. Voilà. Mais par contre, c'est un change. Le montant de la charge n'a pas eu de variation lors du transfert de charge à l'intérieur.
La GEMAPI, on avait un chapitre à Vous l'avez entendu,
non? Non, non. Aucun chiffre à l'heure actuelle n'en est arrivé.
Donc, je vous propose de passer au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 7, notification statutaire du SIH, donc là, concernant les compétences. Donc, l'Assemblée générale du 17 mai 2018 a procédé à la modification statutaire. Donc, sur l'item 4, la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols. Sur l'item 12, l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupe de sous-bassins dans un système aquifère correspondant à une unité hydrographique. que vous avez des questions concernant ces modifications de compétences? Je propose de procéder au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 8. Effacement des réseaux de la rue Dr Roger. Là, il y a une petite erreur de frappe concernant la tranche 2 et non la tranche 1 comme c'était écrit. Et donc la rue du stade du Moulin. Alain, je te laisse vous présenter.
Oui, mais dans la continuité du projet de la rue du Dr Roger, qui ont donc été mis en place ce projet avant que nous arrivions aux commandes. Donc, on procède à, un effacement de réseau dans la partie complémentaire qui se situe en face de la cour de récréation et donc qui flirte avec la rue du stade du Moulin. Voilà, donc tout simplement, cette opération a été chiffrée par le syndicat départemental d'électricité à hauteur de 67 375 euros. Et la part restante à charge de la commune, qui est une estimation, sera de 13 579 euros. Alors pourquoi une estimation? Parce que dans le cadre des appels d'offres que lance le SDEC sur chaque opération, on n'a pas de chiffre définitif. Ceux-ci sont normalement surévalués. Voilà, donc il vous est proposé d'adopter cet effacement de réseau.
Est-ce que vous avez des questions? En l'absence de questions, je pense que tout le village est de plus. Je vous propose de passer au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 9, avenant numéro 1, au marché d'émission OPC, pour les travaux d'aménagement de la rue du Carré. Alain, je te laisse la parole.
Donc, la société OTCE, organisation qui intervient dans le cadre de ce chantier, nous a présenté un avenant en plus-value pour la prise en compte de 4 mois de travaux supplémentaires par rapport au délai prévu initialement. Donc, cette plus-value s'élève à 1347,30 € hors taxes, ce qui fait monter le marché d'ensemble. Le fait passer, pardon, de 11 037 € hors taxe à 12 384,30 € hors taxe. Donc nous vous proposons d'approuver la conclusion de l'avenant numéro 1 en plus-value au marché de mission de l'OPC.
Est-ce que vous avez des questions?
Oui, moi je voulais simplement dire à monsieur Ducussan que ça fait deux fois, à part deux fois, il m'a promis de me donner un rendez-vous.
Mais les marchés sont consultables en mairie. Il faut prendre rendez-vous pour qu'on vous les mette à disposition.
Non, mais moi, je me fie à la parole de M. Ducussan.
C'est bien nouveau, ça. En tout cas, si vous voulez voir les documents, comme on vous l'a déjà proposé, ils sont accessibles en mairie et vous pouvez le constater par vos yeux. Donc, je vous propose de passer au vote. Contre? 4 contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 10, avenant numéro 1, au logo aux œuvres VRD, enduit rénovation des locaux de la MJC, de Riom et du Savès. Je vais laisser la parole à la fin sur les travaux.
Mais de la même manière, sur ce chantier-là, c'est un chantier de rénovation et malheureusement, comme beaucoup de chantiers de rénovation, on a toujours quelques surprises. Donc nous avons eu des reprises de charpente pour 3 228,65 €. La démolition d'un dallage qui était passé sur la partie sanitaire et administration avec la reprise du sol. Des travaux de terrassement complémentaires à l'extérieur, puisqu'on s'est retrouvé avec un bâtiment qui est légèrement enterré et donc avec une aversion des eaux vers le bâtiment. Donc cette plus-value-là était de 1 321,03 €. Et nous avons créé un DC PMR, donc il y a entraîné aussi quelques travaux supplémentaires. L'ensemble de l'avenant est donc de 5 026,56 €, ce qui nous fait passer le montant du marché de 35 058,18 € hors taxe à 40 084,74 € hors taxe.
Vous avez remarqué? Est accessible en mairie.
Voilà. Il n'y a pas de problème.
Oui, mais monsieur, ça, on l'a demandé par écrit.
Et madame.
Que maintenant, c'est accessible en mairie, venez le voir en mairie.
Je vous réponds, si vous voulez, je vous l'écris. C'est disponible en mairie, il n'y a pas de problème.
Donc, on n'a rien à l'école.
Je vous propose de procéder au vote. Contre. 4 contre. Abstention. Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point numéro 12, amendement numéro 1, au lieu.
On a fait le point numéro 11, pardon.
11.
Ah, on fera le
point numéro 11. Nous passons au point numéro 11, amendement numéro 1, au lieu 2, isolation, doublage, batterie, cloison, plafond, faux plafond, rénovation des locaux de la MJC de Rium et du SAPES.
Alors, de la même manière, comme je vous l'avais déjà expliqué, on s'est rendu compte que il était initialement prévu que nous conservions le doublage en place de ce bâtiment. Malheureusement, au moment de la démolition, il a été force a été de constater que ce doublage était loin d'être parfait, sa fixation pas très satisfaisante. Donc, nous avons proposé à l'entreprise qui a été retenue pour faire l'isolation, le doublage et la plâtrerie de reprendre ces doublages et de les remplacer, ce qui nous a permis aussi de faire une demande auprès du conseil régional pour une mise aux normes thermiques du bâtiment. Voilà, puisqu'on est bien entendu avec la configuration que nous avions sur le doublage, on n'était pas au niveau de normes thermiques. Voilà, cette avenant se monte à 4 254,63 €, ce qui porte le marché à 40 480,77 € hors taxe.
Est-ce que vous avez des questions?
Oui, l'opposition réunie en 4 se demande s'il n'y a pas des avenants au marché de travaux et quels sont ces avenants.
C'est ce qu'on vient de présenter. Mais je pense que c'est ce qu'on vient de vous présenter.
Oui. Il y a un pourcentage d'avenants.
On peut les calculer si vous voulez ensemble, mais madame, on peut les calculer ensemble, mais on vous donne le montant et ce que ça impacte. Alain vient de dire que c'était un marché qui était à 36 000 €, que ça le porte à 40 000.
Okay.
Là, vous pouvez calculer. Le pourcentage.
Pourcentage.
Là, il faut calculer et normalement dans les coûts.
Oui, mais comme on connaît bien, on ne sait rien.
Ben, je ne vous le présenterai pas sinon. Donc je vous assure qu'il n'y a pas de problème par rapport au marché. Je vous propose de passer. Mais sinon, vous pouvez à la fois consulter les marchés en mairie. Donc voilà, il faut juste nous dire quand est-ce que vous voulez passer pour qu'on vous mette les marchés à disposition. Vous prenez une calculatrice, je peux vous aider à calculer le pourcentage si besoin. Et on peut le constater comme ça. Enfin voilà, tout est vérifiable. Donc sur ce, je vous propose de passer au vote. Contre, 4 contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 12, avenant numéro 1, au lot 3, menuiserie extérieure aluminium, fermeture volet roulant, aluminium, rénovation des locaux, toujours le MJC.
Alors, là aussi, au moment de la démolition, effectivement, une mauvaise manœuvre d'engin a détruit une ouverture existante qui devait être conservée. Donc, bien sûr, cet avenant représente le remplacement de cette menuiserie pour 1 026 € hors taxe, qui porte le montant du marché à 26 173 € hors taxe pour l'entreprise Sanchez.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Je vous propose de passer au vote. Contre, 4 contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 13, amendement numéro 1, au lieu 8, sol souple, rénovation des locaux de la MJC, toujours.
Et un peu, encore une fois, dans le cadre de la rénovation, une partie du sol libéré par les services techniques après démolition a fait l'objet de réserves par l'entreprise qui devait intervenir au niveau de son souffle. Et cette entreprise a donc demandé le rabotage complet du ragréage existant sous le sol qui était, que nous avons démoli. Nous avons préféré choisir, avec sur conseil de l'architecte, que ce rabotage soit fait par l'entreprise, puisque c'est une opération relativement délicate qui consiste à enlever juste la couche de colle sur le béton, ce que nous n'avions pu faire puisque nous n'avons absolument pas les engins nécessaires. Donc l'entreprise nous a proposé les travaux pour 2000 euros hors taxes, ce qui ramène son montant de marché à 14 500 euros hors taxes.
Est-ce que vous avez des questions?
Je veux savoir qui c'est le maître d'œuvre.
C'est M. Barmé. Architecte. Bon, c'est dans le cadre de rénovation, c'est toujours bon. On attend d'avoir démoli, malheureusement, pour voir ce qu'il y a dessous. Ce n'est pas toujours très concluant. Voilà.
Il y avait un appel à la candidature, mais qui
c'est là ? Ça remonte au CIVOM. Je vous ai déjà fait l'historique de ce dossier plusieurs fois, Madame Moury. Alors, ça serait sympathique que vous notiez une bonne fois pour toutes.
Monsieur Lécustan, je pense que les maîtres d'œuvre du CIVOM ne sont pas les maîtres.
Je vais encore vous dire que c'est sur demande de la sous-préfecture et de la préfecture que nous avons transféré ce dossier à la mairie. Alors, s'il vous plaît, pas de commentaires indus, s'il vous plaît.
Je le sais, mais la sous-préfecture n'a pas demandé à ce que qu'on transfère le maître d'œuvre. Excusez-moi.
Je pense qu'il vaut mieux quand même le faire, dans le sens, sinon on va payer des frais pour un contrat non abouti. Donc ça me semblait le bon sens de continuer. Et on n'est pas schizophrène, on n'est pas quelqu'un d'autre au CIVOM quand on siège au CIVOM, on n'est pas une autre personne quand on siège en tant qu'élu, donc il y a une sorte de continuité aussi à donner. Juste, donc je vous propose de passer au vote sur ce point. Contre ? Oui, pardon. Allez-y.
Sauf erreur de ma part, je vais vérifier quand même, je crois qu'il y a une limite à 15% sur les abonnements.
Oui.
Et là, on dépasse les 15%.
Non, on est à 5. Je viens de calculer. On est en tout à 12 300 euros sur un marché de 236 000 euros.
On va passer de 12 500 à 14 500. Pour moi, ça fait 2 000 euros, ça fait plus de 15%.
C'est sur l'ensemble du marché.
Je parle sur l'ensemble du marché.
Ah non, je parle sur celui-là.
C'est sur l'ensemble.
Non, c'est sur l'ensemble du marché.
Voilà. Les avenants ne sont plus pas faits. Depuis la fin du code du marché, les avenants ne sont
plus. Attendez, je laisse
la.
Mais vous, on ne parle pas de la même chose, c'est normal, madame. Allez-y.
Tu peux apporter précision ?
Oui. Non,
je disais juste que dans les règles de la commande publique, la notion d'avenant a considérablement évolué quand le code des marchés publics a été remplacé par les décrets, les circulaires. Et donc, les avenants ne sont plus plafonnés dans les mêmes ratios. Ben, ça dépend de la circonstance qui est établie. Ça peut monter très haut si l'avenant est justifié par une situation d'urgence et quelque chose qui était indécelable auparavant. Pardon ?
C'est par entreprise, par
l'eau. Non, c'est dans le marché.
En fait, il est logiciel.
C'est dans le marché.
Si, c'est selon la situation et l'appréciation. Après, là, je n'ai pas la règle, je ne la connais pas et je pense que notre DGS ne peut pas vous dire en détail comme ça. Par contre, ce qui est la règle, c'est que là, si on fait la somme des avenants qu'on vous a présentés, ça représente 12 300 euros et que ça représente 5% du budget initial du projet, qui était à 236 000 euros.
Ça va au-delà de ça, de la
réglementation. On vous enverra la réglementation, mais en tout cas, on peut vous dire qu'on est dans les règles aujourd'hui de la commande publique.
Moi, je vais dans les règles, c'est que vous connaissez.
c'est écrit. C'est écrit.
Et oui, madame. Et oui. Et oui. Vous ne savez pas, et moi je peux
vous. On vous les transmettra.
Voilà. Mais bien sûr, madame.
Merci.
Vous savez que je vous attends avec beaucoup de. Si vous voulez, mais je sais que vous l'amènerez, il n'y a pas de problème.
Vous pouvez envoyer le document de contexte.
Oui, très bien. Du coup, je propose de passer au vote parce que je ne pense pas que nous ayons voté pour cet avion-là, dans le doute. Contre, 4 contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Fixation des tarifs municipaux pour l'année 2018. Donc, les tarifs municipaux restent inchangés par rapport à l'année passée. Vous avez le détail, mais je ne vais pas vous en faire une lecture exhaustive, puisque il n'y a pas de modification par rapport à l'année passée. Est-ce que vous avez des remarques?
Il n'y a pas de modification par rapport à l'année passée?
Non, il y a une seule modification pour la piscine municipale, qui était un tarif de demi-journée. Mais comme on ouvre que l'après-midi, ben, il n'y a pas de tarif de demi-journée. Dernier tableau. Oui. Donc je vous propose de passer au vote. Contre. 4 contre. Non, 2 contre. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez laver la main sur... Vous étiez contre ou pas? Donc 2 contre, abstention, 2 abstentions. Approuvé, je vous remercie. Point 15, tarif d'occupation du domaine public pour les forains pour la fête locale de la Saint-Gilles. Donc là aussi, les tarifs restent inchangés. Donc je ne vais pas vous faire la lecture exhaustive des tableaux. Oui.
Il y en avait un à 0 qui est passé à 37.
Un 0 qui est passé à 37.
Oui, moi je suis toujours au même, parce que je suis débordée. Je pense que 14, c'est la piscine municipale qui est dans le 14. Donc je voulais juste poser une question. Pour la MJC, la gratuité le matin, c'est terminé.
C'est pas ouvert le matin. Donc, on était au point 15 sur le tarif des forains.
Oui, donc il y en a un qui est passé 0 à 37.
Je le vois aussi. Ouais. Mais parce qu'il n'y était pas l'année dernière.
Parce qu'il vient d'arriver.
Il vient d'arriver.
Oui.
C'est un nouveau. Mais ça doit être.
C'était pas lui.
C'est proche des années d'antes et c'est vendre en fait les activités. Moi, j'ai la famille. Donc, en fait. C'est le même qui était là. La fête, grosso modo, elle bouge peu dernière année, à part que le propriétaire. Oui, par la pêche au canard. La même pêche au canard. À part que le propriétaire était là.
C'est nominatif, hein, vous voyez. À chaque, d'ailleurs, ça, on le changera certainement l'année prochaine, parce que ça peut poser des difficultés. Si jamais il y en a quelqu'un qui est remplacé, on aura pris une délibération que c'était nominatif. Et donc, voilà, c'est très bien. Pardon? Voilà, exactement, on fera partie de l'activité, exactement. Mais là, on l'a présenté comme ça, comme les années passées. Je vous propose de procéder au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 16, subvention exceptionnelle, Orium, SLTT. Je laisse la parole à Chypatienne.
Donc, point suivant. Subvention exceptionnelle au Rio de la CTT, donc le club de tennis de table de notamment de Rio. Donc une subvention de montant numéro avait été accordée au Rio de la CTT, donc pour le budget, considérant que cette association a produit des résultats sportifs très significatifs qui ont engendré des frais de déplacement et hébergement liés au classement championnat de France d'un des membres du club, il proposait de lui accorder une subvention exceptionnelle de 300 euros, la dépense sera prélevée sur le compte 6574 et affectée au même compte du budget communal. Voilà, pour être un peu plus clair, c'est le club donc, le club de tennis de table, donc il y a un joueur, Samir Cabanel, qui a d'excellents résultats, qui a conclu donc, sur deux déplacements pour le championnat de France, un à Bourges, un à Rennes, et qui a donc fait parvenir notre feuille de placement et on a choisi de participer à hauteur d'environ 30%, sachant qu'il reste certainement notre déplacement.
Il demande des 300 euros ?
Non, il demande 1 100 euros et 50 centimes.
Pour les frais d'hébergement ou de transport ?
Le transport, alors frais d'hôtel, petit déjeuner, restauration chez les sous-lieux si vous voulez, et je peux vous les donner dans le détail. Voilà, donc le déplacement, le premier à Bourges qui s'est levé à 453 euros et 53 centimes, et le déplacement à Rennes qui est à 647 euros et 5 centimes. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie.
On passe au point suivant. Garantie d'emprunt, cession des jeunes handicapés, crédit coopératif, avenant numéro 1, contrat de prêt. Donc on vous l'avait déjà soumis au vote. Les chiffres restent inchangés, sauf que le département est revenu vers nous, puisqu'il ne souhaitait pas d'avoir la mention caution solidaire, puisqu'on est caution de ces emprunts, à hauteur de 30% pour la commune, 70% pour le conseil départemental, et une politique comme quoi ils refusent le mot solidaire dans les cautions. Du coup, je vous soumets cette proposition sans le mot solidaire. Non, ça change pas. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que si jamais la GH était défaillante, ça veut dire que si elle est solidaire, l'emprunteur peut se retourner contre n'importe lequel des deux cautions indifféremment. Alors que là, sans le solidaire, c'est si la GH est défaillante, ça veut dire que le prêteur doit se retourner à hauteur de 70% vers le département et à hauteur de 30% vis-à-vis de la commune. Donc en fait, ça change le volume. C'est en ça où c'est une distinction.
On l'a.
Oui, donc on est en dessous du seuil, on a un tableau récapitulatif que nous avons fait. Oui, il a été fait, on a vérifié, on est en dessous du seuil. Mais au-delà de ça, c'est que la règle, l'article de loi, il faut le lire aussi dans la précision. C'est que normalement, même si nous on est en dessous de ce seuil-là, normalement ce seuil n'est pas exigé quand c'est pour des logements sociaux.
Le seuil n'est pas exigé sur les logements sociaux.
Oui.
C'est le seuil maximum que
la
commune peut verser qui n'est pas
exigé
pour les
logements.
C'est les ratios potentiels, madame.
C'est pas les communes. Si, j'ai le texte qui est là. Donc ces ratios potentiels ne s'appliquent pas aux garanties d'emprunt accordées aux opérations relatives au logement social. Et donc,
même si c'est le taux d'emprunt, c'est le taux de la garantie d'emprunt par commune qui ne peut pas dépasser ce seuil-là.
Non, je pense que vous avez mal compris le texte, madame.
Non, mais
j'en suis désolée, mais
relisez
bien. Alors, je ne vais pas des compétences sur la lecture, mais là sur la compréhension. Monsieur Bertin, vous accueillera avec nous. Bon, arrêtons là. Je vous propose de passer au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 18, décision modificative numéro 2 au budget de la commune, M14, concernant l'investissement.
Merci.
Donc c'est concernant les travaux supplémentaires pour l'opération de la rénovation et l'extension de la MJC, comme vous avez pu le voir. Nous demandons une décision modificative, donc de prendre 10 000 euros, on vous propose sur dépenses d'investissement imprévues, pour les affecter à l'opération de la MJC. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, sachant que c'est le résultat de... Ben, je pense qu'on va traiter les choses au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, la question, c'est sur cette DM-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM ? En l'absence de questions, je propose de procéder au vote. Contre ? Abstention ? Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 19, recrutement d'agents contractuels sur emploi non permanent. Donc, comme chaque année, ce qu'on a vu précédemment par rapport à la piscine, nous embauchons normalement deux managers. Là, nous n'avons eu qu'une seule candidature, donc ce sera pour un poste de 35 heures d'éducateur des activités physiques et sportives pour une durée hebdomadaire temps de 5 heures pour assurer la surveillance de la piscine municipale. Et après, un poste d'agent administratif au premier échelon à 35 heures pour les agents de caisse. Est-ce que vous avez des questions ?
Un BNSS, ça n'allait pas ?
Non, il ne peut pas être seul, non, sans mettre, il faut un maître nageur.
Mais un BNSS, il est
on n'en a pas trouvé. Non. C'est un maître nageur.
C'est un maître nageur.
Oui.
C'est la nouvelle.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je propose de procéder au vote. Contre ? Abstention ? Approuvé, je vous remercie.
C'est un maître nageur ou un poste d'éducateur d'une activité physique ?
C'est un maître nageur.
Il est recruté sur ce grade.
Donc il est recruté sur ce grade, mais c'est un maître nageur. Mais le grade du recrutement est celui-là.
Et pourquoi on ne peut pas faire un contrat avec un maître nageur ? Parce que pour ça existe, un maître nageur aussi. On n'est pas obligé de dire éducateur d'activité physique. Un maître nageur, ça existe dans la loi.
Et pour rémunérer un agent, rémunérer un agent sur la base d'un contrat de droit public, il faut qu'on le renvoie vers un cadre d'emploi qui existe dans la fonction publique. Donc le cadre d'emploi des maîtres. Non, mais le maître nageur, il faut qu'on le rémunère par rapport à une grille indiciaire. C'est la grille indiciaire. Les maîtres nageurs dans la fonction publique, ça n'existe pas. Il faut qu'on le renvoie vers le cadre d'emploi qui correspond à ce métier.
De toute façon, moi, ce que je dois savoir, c'est où est l'objectif là, de cet échange-là, purement administratif.
Oui,
les maîtres nageurs,
oui.
Je vous ai déjà répondu à plusieurs reprises sur ce sujet. Donc, le vote avait été passé, puisque je vous ai fait voter. Donc, l'ordre du jour est terminé. Néanmoins, comme chaque conseil municipal vous tient au courant. Si, on a voté. Je peux faire repasser au vote si vous n'avez pas. Donc, je vous propose de repasser au vote. Vous n'écoutez pas quand je parle, c'est extrêmement vexant. Je vous donc. Non, vous inquiétez pas. Donc, l'autre poste, c'est les hôtes de caisse, comme j'ai pu le dire précédemment.
L'hôte
de caisse. Il y a des caissiers, il y a la piscine. La piscine, il y a quelqu'un qui accueille, qui encaisse les tickets.
Un
seul ? Enfin, c'est sur un poste de 35 heures, ça veut pas dire qu'il y en ait un seul. On a eu des CV et on a revenu des CV.
Donc, il y a un poste à 35 heures, il n'y en a pas plusieurs. Mais il faut pas 35 heures.
Madame, c'est assez logique. La piscine est ouverte qu'avec un maître nageur. La piscine est ouverte quand il y a un maître nageur. On est d'accord sur ça ? Donc le fait qu'il y ait un maître nageur qui ne travaille que 35 heures, l'hôte de caisse ne peut travailler que 35 heures. Il ne va pas travailler plus que le maître nageur ou on ne peut pas ouvrir la piscine quand il n'y a pas de maître nageur. Donc c'est logique. 35 heures, c'est le
juillet,
poste. Donc il y en a un en juillet et il y en a un en août.
Ah, il y en a qu'un par mois.
Oui.
Nous, quand on recrute, on recrute des jeunes une semaine chaque heure. C'est ça que
Mais moi, je suis pour que les jeunes aient une véritable expérience et un mois me semble le minimum pour avoir une véritable expérience dans le monde du travail. Du coup, je vous propose de passer au vote, même si on l'avait déjà voté. Contre ? Un contre ? Abstention ? Approuvé ? Je vous remercie. Donc, comme à chaque conseil municipal, nous faisons un point sur la situation des EHPAD et je vous tiens au courant des démarches que nous avons faites. Suite à nos échanges avec la directrice de l'EHPAD et son conseil, nous avions convenu de nous rapprocher des organismes bancaires, à savoir le Crédit Foncier et la Caisse d'Épargne. Nous avons envoyé un mail pour proposer des rendez-vous. Seule la Caisse d'Épargne nous a répondu. On s'est rencontrés le 13 avril. Avec M. Léon et Mme Thomas, afin de faire un point sur la situation. Donc, on a évoqué le dossier et les solutions que nous pouvions apporter. Il n'y avait pas d'objection sur la proposition que l'EHPAD puisse se racheter, sous bien sûr couvert de la stabilité juridique du dossier, la capacité d'EHPAD, les droits réels aussi sur la propriété et la réitération des garanties, bien sûr, au prêt, tel que c'était déjà le cas. Et on est convenu sur le même point qu'il était nécessaire d'attendre la décision du Conseil d'État pour avoir une stabilité juridique du dossier. Donc ça, c'est des choses déjà sur lesquelles on a pu nous échanger, mais vous dire en tout cas le compte rendu du rendez-vous. Et nous avons relancé donc Maître Côté de la VAR, qui est notre avocat auprès du Conseil d'État. Si vous voulez, je vous fais lecture de, la lettre de réponse qu'il nous a adressée le 4 juillet, puisqu'on se préoccupait d'avoir un retour du Conseil d'État à ce jour. Donc il écrit « Ainsi que vous m'avez été demandé, je viens vous informer de l'état de la procédure au cours devant le Conseil d'État à l'occasion du pourvoi formé par la commune contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Ce pourvoi en cassation au moyen des conclusions duquel l'OPH 31, auteur de son côté dans notre pourvoi contre le même arrêt, a déclaré s'associer, a été déclaré admis à la fin du mois de décembre 2017 par le Conseil d'État, qui a donc considéré que les moyens de cassation invoqués dans notre mémoire présentaient un caractère suffisamment sérieux pour que la procédure soit instruite de façon contradictoire, ce qui n'est le cas d'environ plus de 40% des pourvois inscrits. Le mémoire de la commune a donc été communiqué à l'association pour qu'elle fasse connaître ses observations en défense. En cet état, je vais indiquer à mon confrère, Maître Cyr, que bien que dépourvu de toute influence sur le cours de la procédure devant le Conseil d'État, je pouvais prévoir la fixation d'une date d'audience avant fin mai 2018. Malheureusement, j'ai sans doute été un peu optimiste, puisqu'un rapporteur vient seulement d'être désigné, le 18 mai, pour procéder à l'instruction du dossier. Ce retard est dû au fait que l'association n'a pas encore déposé ses observations. Après les avoir vainement attendus, le Conseil d'État a donc décidé de s'en passer en commençant l'instruction du dossier, d'où la nomination d'un rapporteur. À ce stade, je ne crois pas réaliste escompter une mise en urgence avant l'été, mais l'on peut encore raisonnablement espérer que cela soit pour les mois de septembre-octobre prochain. Je suis navré de vous être plus précis, mais il n'existe pas au Conseil d'État de calendrier de procédure et la durée de l'instance y est variable dans la limite d'un délai maximum de 2 ans. Voilà. Et je vous rappelle à ce sujet que le pourvoi a été introduit au mois d'avril 2017. Donc voilà pour les informations. Il a bon espoir qu'en septembre, octobre, on ait un retour. À ce stade, moi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que l'avocat au Conseil d'État. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Quand tu dis que les conclusions sont recevables, c'est le recours qui est recevable. Ce ne sont pas les conclusions, parce que personne n'a. C'est lui qui dit qu'elles sont recevables. C'est pas le rapporteur.
Non, je vous avais pas compris. En fait, en Conseil d'État, ce qui se passe, c'est. Et on l'avait déjà expliqué, hein, ce qui se passe, c'est que quand on dépose un recours auprès du Conseil d'État, soit il est admis pour être étudié, soit il n'est pas admis. Donc quand il dit qu'il est recevable, ça veut dire que ça a été admis pour être étudié dans le fond. Voilà. Sinon, ça aurait été rejeté, ça aurait été déjà terminé. Donc là, on a passé le premier cap. Et il dit bien qu'il n'y a que 40% des dossiers qui passent ce cap-là, puisqu'en fait, souvent, le Conseil d'État ne s'estime pas d'intérêt à aller plus loin dans l'étude du dossier. Voilà. C'est pour ça qu'il parle de former une déchise au vocabulaire.
Donc, dans cette attente, les bacs se rachètent,
c'est ça ? C'est en tout cas ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. Donc, en fait, l'objectif, c'est de préparer tout. Mais par contre, conclure quelque chose sans stabilité juridique serait quelque chose d'assez périlleux.
C'est ce que M. Solana lui-même a écrit à M. le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Si vous voulez, nous
vous en prie. Non, je vous remercie de le transmettre. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
On avait d'autres points ?
Non,
oui, le compteur limité.
On avait un autre point pour vous informer, vous dire que nous avions pris un arrêté municipal concernant le compteur Linky. Je pense que, au vu de ce que vous m'écrivez par mail, je pense qu'on n'a pas assisté aux mêmes échanges, mais en tout cas pour demander à ce qu'on prenne en compte le souhait des propriétaires d'avoir ou pas, de pouvoir dire non en tout cas, de pouvoir refuser. Et vous pourrez le voir.
Changer de dénomination. Non, on change.
Voilà. On demande à ce qu'en tout cas ce soit pris en compte.
Voilà. Il est actif, madame le maire ?
Oui, il est actif, oui.
Et vous l'avez publié sur Internet ?
Oui, il a été publié. Je peux vous en faire lecture si vous voulez. L'opérateur chargé de la pose du compteur Linky doit garantir aux usagers la liberté d'exercer leurs droits à titre individuel et sans pression pour refuser ou accepter l'accès à leur logement ou propriété, refuser ou accepter la pose d'un tel compteur, refuser ou accepter que les données collectées pour le compteur soient transmises à des tiers partenaires, ou commerciaux et de l'opérateur. L'usager, qu'il soit propriétaire ou locataire, doit être clairement informé au préalable de la pose d'un compteur communicant et doit pouvoir exercer son droit de refus par lettre simple. Aucun compteur ne pourra être posé sans l'accord formel exprimant une liberté par l'usager concerné.
Mais les communiqués, elle a...
Oui, mais bon, tout le monde
ne le sait pas, alors pas, mais c'est sur le site internet de la commune.
Si, il y avait quand même des élus de la commune, on aurait pu être informés. Ouais, c'est la moindre des choses.
Mais alors, c'est, vous êtes informé ce soir, et je ne pense pas vous envoyer chaque arrêté qui est pris habituellement. Mais est-ce que vous recevez chaque arrêté dans votre boîte mail? Est-ce que vous souhaitez? Alors après, il est actif depuis le 11 juin. Le 11 juin?
Le 11 juin. Mais il n'est pas pris.
Mais quand vous l'avez pris.
Mais le 11 juin, on est quel jour aujourd'hui?
La décision de reprendre. Au moins, je nous informer de la décision de prendre un arrêté.
Donc, alors, moi, je reviens au dernier mail que vous avez envoyé. C'est pas grave.
Non, je ne tiens pas à la
liste.
Et on a envoyé à toutes personnes qui nous ont sollicité par écrit pour leur avoir envoyé la lettre.
Il y en a beaucoup qui ne le savent pas.
Toutes personnes qui nous ont sollicité pour nous dire qu'ils ne souhaitaient pas, on leur a envoyé la lettre. Après l'arrêté, il est publié, on ne va pas le tracter. Mais juste vous dire quelque chose, c'est que les techniciens nous ont informé qu'on avait eu 40 refus de compteur Linky. Je sais qu'une personne l'a refusé à trois reprises. Ça s'est pas mal passé et ils ont accepté, ils ont continué. Donc j'ai l'impression qu'on a un débat pour faire un débat. Je vous propose, madame, vous avez dit que vous regrettiez d'avoir le conseil municipal ce soir parce qu'il y avait une bonne émission à la télé avec sur ça. Je vous propose d'y aller, comme ça vous aurez plus d'informations. Envoyez-moi tous les courriers que vous avez envoyés. Sur ce, je vous propose de clôturer la séance et je vous souhaite une bonne soirée devant la télé, madame.